VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel du lundi 25 novembre 2019. Abdourahmane Dia à la présentation, voici le titre. En RDC, des manifestants attaquent deux camps de la MONUSCO à Beni pour protester contre les massacres de civils.
Toute la journée, la ville a été paralysée et que maintenant, vers les 16h, 17h, le calme semble revenu, mais on ne sait pas comment sera demain.
Les Bissau-Guinéens attendent les résultats de la présidentielle. Le prochain président va hériter d'une situation difficile. Reportage magazine dans la seconde partie. Au Kenya, des pluies torrentielles ont fait au moins 52 morts depuis vendredi dans l'ouest du pays. À Hong Kong, victoire écrasante des candidats pro-démocratie aux élections locales. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. La mission de l'ONU en RDC ne peut pas rester sans fin, a déclaré ce lundi la présidente du Parlement congolais, Jeanine Mabunda, au moment où la population de Beni attaque des symboles de l'État congolais et de l'ONU, accusés d'inaction après des massacres de civils. Le point avec Irénée Hermanoumbo.
Il y a un malaise entre la présence, le coût de la MONUSCO en République démocratique du Congo et les résultats obtenus, a indiqué Mme Mabunda. Elle juge légitime que les populations se demandent pourquoi cette force persiste en RDC. Ça fait 20 ans que la MONUSCO est en RDC. Cela doit être une des missions les plus longues et les plus vieilles au monde. C'est presque $1 milliard par an qui sont dépensés, a déploré Mme Mabunda. Or, c'est une force de maintien de la paix et les caractéristiques de son mandat font qu'elle est parfois limitée dans ses capacités de réponse, a-t-elle ajouté. Des manifestants en colère ont incendié ce matin la mairie de Beni, puis se sont attaqués à deux camps de la MONUSCO pour dénoncer l'inaction après un nouveau massacre de 8 civils la nuit dernière. Ils ont envahi ces camps malgré le barrage de tir des forces de sécurité. Au total, 77 civils ont été tués depuis le 5 novembre à Beni et ses environs. Ces massacres sont souvent attribués aux rebelles ADF.
Signalons que dans un communiqué, la présidence à Kinshasa a annoncé des opérations conjointes entre l'armée et la MONUSCO à Beni afin d'assurer la paix et la sécurité de la population civile. La présidence a également annoncé l'installation d'un quartier général avancé des forces armées à Beni à l'issue d'une réunion urgente d'un conseil de sécurité à Kinshasa présidé par le président Félix Tshisekedi en présence de la chef de la MONUSCO, Mme Leila Zerougui. Nous y reviendrons en partie magazine. En Guinée-Bissau, la commission électorale estime que le premier tour de la présidentielle s'est tenu dans le calme et à la régulière, malgré les critiques du parti au pouvoir. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le premier tour s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national, a déclaré Félix Bertha Vassamoura, porte-parole de la commission nationale électorale, assurant, je cite, « Nous sommes déterminés à tout faire dans la transparence ». Le camp du président sortant, José Mario Vass, qui brigue un second mandat, a dénoncé un bourrage d'urnes. José Mario Vass se présente en indépendant. Son camp a mis en cause le PAIGC, parti majoritaire au Parlement. C'est faux, il n'y a pas eu de bourrage d'urnes, a rétorqué la porte-parole de la Commission nationale, expliquant que le vote anticipé des militaires jeudi a pu prêter à confusion. Le chef du PAIGC, l'ancien premier ministre évincé par le président Vass en 2015, Domingos Simões Pereira, a affirmé qu'il respecterait le résultat. Des échauffourées ont été signalées dans plusieurs localités, mais aucune violence majeure n'a été rapportée. Le dépouillement a commencé hier. Les premiers résultats sont attendus ce mercredi. Si aucun des 12 candidats n'obtient la majorité, un second tour est prévu le 29 décembre.
Au Cameroun, le principal opposant, Maurice Kamto, a annoncé que son parti ne participerait pas aux élections municipales et législatives prévues le 9 février. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle les Camerounais à ne pas aller voter et à rester chez eux afin de ne pas cautionner les élections qui ne ramèneront pas la paix dans notre pays, a-t-il déclaré. Le Nigeria a lancé ce lundi son premier registre national des délinquants sexuels, créant une base de données sur les personnes reconnues coupables de violences sexuelles. Ce registre des délinquants sexuels contiendra les noms de toutes les personnes coupables de violences sexuelles depuis 2015 et sera disponible en ligne pour aider le public, les organismes publics et la police à vérifier leurs antécédents et à identifier les récidivistes. Le registre est un premier pas pour mettre fin aux violences faites aux femmes, a déclaré la ministre des Affaires humanitaires, Sadia Farouk, qui a salué cette initiative. La Namibie vote mercredi pour les élections générales. L'organisation du peuple du sud-ouest africain, la SWAPO, au pouvoir depuis son indépendance en 1990, est le grand favori malgré une récession économique sévère et la grogne montante de la population. Un tiers de la population est au chômage et son produit intérieur brut a reculé. Au Kenya, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'ouest du pays depuis vendredi ont fait 52 morts, notamment dans des glissements de terrain. Claire Morinchbourg.
Ce nouveau bilan a été donné par John Lonian Gapuo, le gouverneur du comté de West Pokot, à 350 km au nord-ouest de Nairobi. Des ponts ont été emportés par les inondations, rendant difficile l'accès des secours et des hélicoptères de l'armée et de la police. La Croix-Rouge kényane fait état de glissements de terrain massifs, ajoutant avoir déployé des équipes sur place. En Tanzanie voisine, au moins 10 personnes se sont noyées, emportées par une rivière en crue. Les précipitations ont aussi fait des dizaines de milliers de déplacés en Somalie. Des villes entières ont été submergées au Soudan du Sud et les inondations ont fait plusieurs morts en Éthiopie. Les inondations sont un phénomène régulier dans la région. Des scientifiques expliquent qu'un phénomène climatique centré sur l'océan Indien, d'une puissance jamais observée depuis des années, a provoqué ces dernières semaines des pluies dévastatrices.
En Égypte, un militant copte des droits humains a été arrêté. Le parquet l'accuse d'avoir intégré un groupe terroriste, d'avoir reçu des fonds étrangers et diffusé de fausses informations. Rami Kamel a été arrêté à son domicile du Caire par 7 policiers en civil, a indiqué son avocat. Ce militant de la communauté chrétienne copte d'Égypte s'est fait connaître durant la révolte populaire de 2011 qui a provoqué la chute d'Hosni Moubarak, appelant davantage de droits pour cette minorité. La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale a dénoncé sa détention.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Hong Kong, victoire écrasante des pro-démocratie aux élections locales. Ce résultat est révélateur d'un large soutien des habitants à un mouvement de contestation sans précédent. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a promis d'écouter humblement les électeurs. Eric Manirakiza.
L'ampleur du revers subi par les candidats pro-Pékin a surpris et sonne comme un camouflet pour les autorités chinoises, lesquelles ont cependant assuré continuer à soutenir résolument Carrie Lam, chef de l'exécutif hongkongais. Le parti travailliste, qui appartient au bloc politique pro-démocratie, a attribué le résultat électoral à la sueur, le sang et les larmes des manifestants. Madame Lam a déclaré qu'elle écoutera les opinions des citoyens, mais n'a livré aucune précision sur ce qu'elle entend faire. Le caricaturiste chinois dissident Badiou Cao a salué le grand esprit du mouvement, estimant que cette victoire constitue un espoir pour l'ensemble de la Chine. Depuis une semaine, la mégapole qui a connu de violentes manifestations a eu un répit durant ces élections.
Des Iraniens ont défilé ce lundi en masse à Téhéran à l'appel des autorités. C'est pour dénoncer les émeutes qui ont secoué l'Iran la semaine précédente. Téhéran accuse Washington d'être derrière les manifestations qui ont éclaté le 15 novembre après l'annonce d'une hausse du prix de l'essence. Au Liban, les forces de sécurité ont rouvert plusieurs routes bloquées par les manifestants au lendemain d'attaques de partisans des mouvements chiites Hezbollah et Hamal contre les contestataires qui réclament depuis le 17 octobre le départ de toute la classe politique. Ce matin, la mobilisation était timide malgré un appel de la contestation à une grève générale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé une visite au Qatar pour réaffirmer le partenariat entre les deux pays alliés en froid avec l'Arabie Saoudite. Les liens entre Doha et Ankara se sont consolidés depuis que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques en juin 2017 avec le Qatar. Deux Français ont été tués par balle dans la capitale haïtienne où ils venaient d'arriver. L'ambassade de France qui a donné l'information n'a pas indiqué les motivations de ces assassinats. Haïti est en proie à une grave crise avec des manifestations depuis le mois d'août pour réclamer la démission du président Moïse. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nanik Talani qui nous présente la Minute Éco.
L'Éthiopie souhaite augmenter la contribution du secteur minier à son PIB de 10% d'ici 2030 contre 3% actuellement. Le pays annoncera sa loi minière révisée d'ici le mois d'août de l'année prochaine. Elle permettra aux autorités éthiopiennes d'accorder des incitations aux investisseurs qui développent des minéraux utilisés dans l'agriculture tels que la potasse, un ingrédient clé des engrais, ainsi que des minéraux de construction. Les États-Unis vont fournir 430 milliards de dollars en assurance pour couvrir les risques liés à la modernisation du gazoduc EMG. Ce pipeline de 90 km servira à acheminer le gaz extrait des champs israéliens Tamar et Léviathan vers l'Égypte à partir du mois prochain. Ce gazoduc a cessé d'opérer depuis 2012 après avoir été touché par plusieurs bombardements lors de la dernière période d'instabilité politique qu'a connue l'Égypte. Pour terminer, les pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, recherchent 2820 milliards de francs CFA destinés entre autres à la modernisation des infrastructures de transport. La moitié de ces fonds servira notamment à financer les 12 projets prioritaires, dont 2 ports à sec et 6 routes transnationales pour une meilleure intégration sous-régionale. Le reste ira aux aménagements et extensions électriques, aux travaux dans le numérique ainsi qu'à l'éducation et au développement du capital humain.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Eliud Kipchoge, sacré athlète de l'année.
Oui, le Kenyan de 35 ans a été honoré lors de la soirée de remise de prix organisée par la Fédération internationale d'athlétisme à Monaco. Eliud Kipchoge, déjà détenteur du record du monde du marathon, 2h 1 minute 39 secondes, est entré dans l'histoire le 12 octobre en courant le marathon en 1h 59 minutes 40 secondes lors d'un événement non homologué organisé par son sponsor à Vienne. Chez les dames, Dalila Muhammad a vu sa magnifique saison 2019 récompensée. Après s'être approprié le record du monde du 400 mètres haies, 52 secondes 20, lors des sélections US en juillet, l'Américaine de 29 ans a fait encore mieux au championnat du monde en améliorant son chrono. En finale, 52 secondes 16 secondes.
L'Espérance de Tunis affrontera Al-Hilal au Mondial des clubs 2019.
Le tableau du tournoi est désormais complet avec les succès de Flamengo et Al-Hilal respectivement en Copa Libertadores et en Ligue des champions asiatiques. Représentant de l'Afrique, l'Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue des champions, débute son tournoi au second tour. Les Sang et Or affronteront les Saoudiens d'Al-Hilal le 1er décembre. En cas de qualification, le club tunisien fera face en demi-finale à Flamengo. Le club brésilien s'est imposé samedi contre River Plate en finale de la Copa Libertadores 2-1. La Coupe du Monde des clubs aura lieu du 11 au 21 décembre au Qatar.
En boxe, Deontay Wilder conserve son titre de WBC des poids lourds.
Oui, l'Américain a conservé son titre en battant par KO au 7e round le Cubain Luis Ortiz à Las Vegas, 20 mois après s'être fait peur face à Ortiz qui l'avait fait vaciller à la 7e reprise de leur premier affrontement avant de finalement céder à la 10e. Wilder a choisi ce même 7e round pour en finir avec son adversaire qui avait pourtant dominé la première partie du combat. Un seul coup indirect du droit a suffi pour mettre à terre King Kong. Wilder, 34 ans, compte désormais 42 victoires, dont 41 par KO, et un match nul concédé face au Britannique Tyson Fury, qu'il retrouvera pour une deuxième confrontation le 22 février.
En NBA, Rajon Rondo écope d'une grosse amende pour gestes antisportifs.
Oui, le meneur de Los Angeles s'est vu infliger une amende de $35 000 par la NBA au lendemain de son exclusion lors de la victoire 130-127 de son équipe à Oklahoma City. Ryan Rondo a été sanctionné pour contact physique antisportif après avoir voulu asséner un coup de genou dans l'entrejambe de Dennis Schroeder et avoir insulté un des arbitres. La NBA a aussi infligé une amende de $5,000 à l'arrière des Clippers, Patrick Beverley, coupable d'avoir exagéré sa chute après un contact avec James Harden lors de la victoire de Los Angeles sur Houston.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Leur colère était surtout dirigée contre les forces des Nations Unies, accusées de ne rien faire pour la sécurité dans la région. Ce lundi, des émeutiers ont envahi et mis le feu à un camp de l'ONU à Beni, dans l'est de la RDC. Les habitants dénoncent un nouveau massacre de civils attribué au groupe armé ADF et l'inaction des casques bleus. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Beni Nikez Kibel-Beloka, directeur de publication des coulisses.
Depuis 3-4 jours, on accuse les Nations Unies, la MONUSCO, d'être inactive, de ne pas intervenir dans les opérations, de ne pas appuyer les FRDC dans les opérations au front. Alors la population avait l'option de demander le départ de la force onusienne. Bon, aujourd'hui, ça a dégénéré avec la tuerie de 8 personnes dans la nuit de dimanche à ce lundi.
Et comment est la situation en ce moment?
Actuellement, toute la journée, la situation était très très tendue parce que les manifestants se sont pris au symbole de l'État. Ils ont brûlé la mairie de Beni, l'hôtel de ville de Beni, ils l'ont brûlé. Ils sont descendus à la base de la MONUSCO, la première base, ils ont mis du feu. Toute la journée, la situation était très, très tendue. Les manifestants ont réussi à incendier l'hôtel de ville de Beni. Après, ils sont descendus à l'une des bases de la MONUSCO, ils ont réussi à entrer et à piller certains effets, à brûler même des véhicules. Et ils ont été contenus quand ils sont arrivés au niveau de la deuxième base qu'on appelle Madiba. Et il faut dire que toute la journée, la ville a été paralysée et que maintenant, vers les 16h, 17h, le calme semble revenu, mais on ne sait pas comment sera demain.
Alors, on a l'impression aussi que cette situation est favorisée par les autorités congolaises. Hein, quand on écoute Janine Mabunda, qui est la présidente du Parlement congolais, elle s'est interrogée sur le rôle de la MONUSCO au Congo.
Le problème, c'est que c'est un peu en retard qu'on s'interroge sur ce rôle-là. Il faut dire aussi que la déclaration de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui a dit que la MONUSCO ne participait pas à l'opération, ça aussi, ça n'a pas été bien apprécié. Au fait, de part et d'autre, la communication ne semble pas être bien maîtrisée, parce que lorsqu'on déclare cela et qu'il y a mort d'homme, naturellement, la population ne comprend pas pourquoi la MONUSCO peut être à Beni et on tue devant elle sans réagir. Naturellement aussi, lorsque la présidente de l'Assemblée nationale déclare cela, ça donne un peu de la force à la population qui manifeste et qui demande avec violence le départ des troupes de la MONUSCO.
Alors, si les populations sont fâchées contre l'inaction de la MONUSCO, pourquoi elles s'en prennent à la mairie?
Alors, il faut dire que d'abord, la région de Beni est infectée de groupes armés. Rien n'exclut que dans la population, il y ait eu des groupes armés, notamment des Maïmaï qui sont entrés, parce qu'il n'y a pas de raison que la population puisse en prendre au symbole de l'État. Il n'y a vraiment aucune raison.
Le journaliste Nikez Kibel-Beloka à Beni.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En Guinée-Bissau, les électeurs attendent la publication des résultats de la présidentielle qui a opposé hier 12 candidats. Le vainqueur va hériter d'une situation économique et sociale difficile. Ils reconnaissent tous une crise aiguë dans le secteur de la santé. Les malades qui le peuvent vont se soigner dans les hôpitaux de la sous-région alors que les médecins bissau-guinéens montent au créneau pour dénoncer leur manque de moyens. Reportage Ndari Kaling-Lopi.
Dans l'hôpital Simon Chmendish, le plus grand de la capitale bissau-guinéenne, les malades se pressent pour être auscultés. Au milieu de l'établissement, le service pédiatrique.
Normalement, non consulte. Permettez pour recevoir pas dire, nos masques ont été 25.
Normalement, je devrais voir 25 patients par jour, mais dans les faits, j'en vois plus de 60. Nous ne sommes que 2 médecins.
12 médicos, pas dire.
Sadjolele a 28 ans et déjà plusieurs mois de pratique dans cet hôpital. En Guinée-Bissau, le secteur médical est sinistré. Peu de docteurs, pas de médicaments. Dans la salle de consultation couleur vert d'eau, le jeune pédiatre nous explique son quotidien.
On ne souhaite pas aller vite, mais on est pressé par les temps parce que parfois on a beaucoup de patients. C'est pourquoi on consulte rapidement et parfois on n'a pas assez le temps de terminer les diagnostics. Et parfois les gens rentrent chez eux et nous disent que ça a empiré.
L'hôpital manque de moyens. Les candidats à la présidentielle se sont tous exprimés en faveur d'une refonte du système de santé. Alors qu'en pensent les médecins?
Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Peu importe celui qui gagnera la présidentielle. Ils ont fait beaucoup de promesses non tenues concernant l'hôpital et l'école. Et on n'a rien vu se produire. Je n'ai plus confiance.
Désabusé, Sadjolele ne croit plus au discours. L'année dernière, il n'aperçut que 2 mois de salaire. Il part pour suivre ses consultations. Après le rez-de-chaussée, le premier étage est l'aile réservée aux nouveau-nés. Uniforme bleu marine, Maria Rosa est infirmière. Elle dresse le même constat que son collègue.
Nous n'avons que 7 lits, carrément tout le temps occupés. Donc, lorsque nous observons qu'un enfant va mieux, il sort et nous acceptons un nouveau patient.
Aujourd'hui, le principal hôpital de la capitale ne pourrait pas fonctionner sans aide venue de l'étranger. C'est le cas pour les nouveau-nés, nous explique Maria Rosa.
Pour le moment, on n'observe pas de difficultés parce qu'en ce moment, le service pédiatrique est soutenu par des organisations non gouvernementales qui nous donnent des médicaments. C'est ce qui nous permet en ce moment aux parents de ne rien avoir à acheter.
Durant la campagne présidentielle, chaque candidat s'est engagé en faveur d'un meilleur accès aux soins. Aujourd'hui, les Bissau-Guinéens demandent à voir. Ndari Kalinglopi à Bissau pour VOA Afrique.
L'hymne national du Niger va bientôt être modifié ou carrément changé. C'est ce qu'ont décidé les autorités du pays. Certains passages de l'hymne actuel, qui date de 1961, font en effet polémique. Un comité d'experts a été mis en place pour ce faire. Le reportage sur place d'Abdoul Razak Idrissa.
La décision est fortement saluée par les citoyens.
Nous sommes vraiment fiers que cela soit une réalité.
Je crois que c'est une très bonne chose à partir du moment où notre hymne est d'abord notre unité. Et en principe, cette dernière doit être le reflet de notre histoire.
On doit complètement changer l'hymne national dans sa globalité parce que ça ne répond pas aux réalités socio-culturelles du pays.
Le comité d'experts mis en place va travailler sur la base des propositions. Un appel a été lancé dans ce sens par le ministre de la Renaissance culturelle, Assoumana, Madame Issa.
Changer l'hymne national est un projet citoyen. Il engage certes le gouvernement qui en a la responsabilité, mais il engage les citoyens tout entier. Et donc nous avons décidé que ce soit un programme participatif, inclusif. Chaque Nigérien qui se sente capable d'apporter sa contribution en proposant un hymne ou bien en proposant des modifications des paroles de l'hymne existant, sa contribution est la bienvenue. Le comité va la mettre dans le panier des propositions et on va les examiner pour qu'au sortir, on puisse mettre tout ensemble, avoir un hymne modifié ou totalement un hymne rénové.
Beaucoup de passages du texte de l'hymne actuel font polémique depuis des années. Cheibou Maman, un des experts, membre du comité, revient sur les principaux.
Vous avez par exemple le paternalisme et le colonialisme. Lorsqu'on dit dans l'hymne « Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle », ça c'est véritablement colonialiste. Un autre aspect négatif de notre hymne national actuel, la nigérienne, eh bien c'est que ça véhicule le racisme. Lorsqu'il dit des expressions comme « les glorieux accents »,« une race sans tutelle », Eh bien, cela semble faire référence à la race nègre, avec tous les préjugés, tous les stéréotypes, n'est-ce pas, qui entourent la race nègre. Ça, c'est purement négatif. La musique aussi comporte beaucoup d'insuffisances. Donc, nous sommes aujourd'hui 60 ans après. Évidemment, nous ne pouvons pas continuer à accepter, disons, cette situation.
Un rappel, c'est en 1961 qu'un écrivain français a écrit les paroles de la Nigérienne. Deux autres Français, auteurs compositeurs, ont composé la musique qui l'accompagne depuis ces années. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, les audiences publiques au Congrès ont fourni de nouveaux détails sur les allégations des démocrates contre le président Trump. Le chef de l'exécutif américain aurait poussé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à enquêter sur un rival politique, Joe Biden, et son fils Hunter. Les parlementaires à présent rédigent les articles de mise en accusation dont le vote est prévu avant la fin de l'année à la Chambre des représentants. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, explique les prochaines étapes, le récit de Lionel Gaïma.
Douze témoignages en cinq jours. Les audiences publiques ont permis d'entendre des témoins directs de l'appel téléphonique du président Trump à son homologue ukrainien. L'un d'eux est le lieutenant-colonel Alexander Vindam, directeur des affaires européennes au Conseil national de sécurité.
Il est inapproprié que le président des États-Unis demande à un gouvernement étranger d'enquêter sur un citoyen américain et un adversaire politique.
Plusieurs témoins ont rapporté que Rudolph Giuliani, avocat personnel du président, avait exhorté les autorités ukrainiennes à annoncer l'ouverture d'une telle enquête. Gordon Sondland, ambassadeur américain auprès de l'Union européenne.
Nous avions tous compris que si nous refusions de travailler avec M. Giuliani, nous pourrions perdre une occasion importante de consolider les relations entre les États-Unis et l'Ukraine. Nous avons donc suivi les ordres du président.
Seulement, aucun des témoins n'a lié directement à Trump les demandes de Giuliani. Les républicains affirment que les inquiétudes de la Maison-Blanche sur la corruption en Ukraine ont retardé l'aide à ce pays. Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre.
Je pense que le président avait plus confiance dans le changement de gouvernement en Ukraine que ce qui a été voté dans le passé. Il voulait s'assurer qu'il y a eu des changements.
Les auditions ont prouvé que Trump a commis une faute impardonnable d'abus de pouvoir, d'après Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre.
Lorsque nous constatons une violation de la Constitution, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Et il est clairement établi que le président s'est servi de son pouvoir pour son intérêt personnel. Et ce faisant, il a porté atteinte à la sécurité nationale des États-Unis en bloquant l'aide militaire à l'Ukraine au bénéfice des Russes. Il a sapé l'intégrité de nos élections par son acte.
La date du vote de mise en accusation de la Chambre reste incertaine. Jerry Nadler, président de la commission judiciaire, devra reprendre l'enquête menée par Adam Schiff, président de la commission du renseignement. Il faudra aussi rédiger les articles de mise en accusation et les démocrates sont toujours confrontés au défi de convaincre le public. Hans Noel de l'Université de Georgetown.
La plupart des actions sont difficiles à présenter comme des infractions impardonnables. Les tenants et les aboutissants de cette affaire sont difficiles à comprendre. Trump est-il pour ou contre l'Ukraine? Il est difficile pour la plupart des électeurs de percevoir le problème exact. C'est pourquoi ils vont se tourner vers des sources de confiance pour les aider à comprendre. Les démocrates vont se tourner vers des sources démocrates et les républicains vont écouter des sources républicaines.
Le soutien du public à la mise en accusation a légèrement augmenté, mais le pays reste profondément divisé sur le sujet. Les démocrates se préparent à un vote à la Chambre, peut-être d'ici la fin de l'année. Mais le dernier mot reviendra, probablement début de l'année, au Sénat qui est dominé par les républicains.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.